En même temps, avec tout le côté dérisoire, parce que c'est bien que, comme pour un médecin, que notre combat est fondamentalement raté. Et alors je pense aussi à propos de ça.
C'est pas de la photo, c'est de l'image avec un grand T. Hein? Bon.
C'est pas de la.
Avec un grand T. Notre propre passé, notre passé d'hier. C'est pas comme mes collègues archéologues qui vont chercher dans la mémoire gallo-romaine.
Donc je suis Laure Perrault, bénévole pour le grand album. Je m'occupe de la structure de Francesco Zizola.
Il est né en 1962, il vit à Rome.
Ouais.
Il exerce la profession de grand reporter. Il est membre de l'agence Contrasto. Il couvre l'actualité internationale avec des enquêtes en Albanie, Corée du Nord, Israël, Yougoslavie. Il obtient le premier prix du World Press Photo en 1997 avec une photographie illustrant la tragédie des mines antipersonnelles en Angola. Il poursuit depuis 10 ans une œuvre personnelle sur la condition des enfants à travers le monde. À Chalon-sur-Saône, à la rencontre des familles d'origine étrangère, il enregistre leurs histoires et leurs déracinements. Pour Francesco Zizola, Chalon-sur-Saône est un microcosme, une métaphore de l'Europe et de ses processus d'immigration, réalisé grâce à la Chambre de commerce et d'industrie et à l'agence Pruneau Vanier. Voilà, on entre. Alors il y a une sorte de marche. Voilà, il n'y en a qu'une. Hein.
C'est quoi? C'est un bâtiment?
Oui, c'est comme un bâtiment. Alors il y a une structure en bois qui va supporter. Donc les photos sont posées contre la structure.
C'est des lattes, des cadres de bois sur lesquels les photographies sont installées.
Apparemment, ce sont des photos d'émigrés, enfin de quartiers pauvres, avec des HLM probablement, des enfants. Une vision un peu, enfin pas pessimiste, mais peut-être réaliste quand même, mais d'une certaine pauvreté de banlieue. Enfin, pour moi, ça serait un Chalon, un chalon pas très, très riche, enfin, qui est plutôt celui de la pauvreté, de l'immigration et de la difficulté à vivre.
Des situations de famille.
Oui.
Plusieurs personnages.
Surtout l'Afrique, hein, tu me dis. C'est surtout
oui,
l'Afrique.
Oui, beaucoup d'Afrique, oui.
Bon.
Des situations de famille, il y a des atmosphères rigolées, il y a des atmosphères tristes.
Oui.
C'est très différent, hein. Chacune
D'accord.
c'est différent.
Toi,
mais c'est plus triste. Les images même,
oui,
oui sont très très fortes.
Oui. Oui, parce que tu es photographe, donc tu... Oui.
Voilà,
et tout est en noir et blanc.
C'est tout noir et blanc.
D'accord.
Oui.
Et il y en a beaucoup ?
Il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup. Et format grand, on
oui.
voit bien tous les détails. C'est très intéressant. Il y a aussi des mouvements. Des mouvements, ou avec l'appareil, ou des mouvements de... Par exemple, il y a quelqu'un qui fume, on voit des mouvements
de fumée,
oui. Ou le petit enfant qui bouge beaucoup, et comme c'est photographié dans le sombre, alors c'est une longue exposée, on voit un mouvement aussi. C'est très bien.
C'est très beau. Et il y a un rideau de dentelle blanche qui passe dans un éclat de lumière juste au-dessus de sa tête et la ligne de lumière qui descend le long de son flanc gauche jusqu'à la naissance de sa hanche où on voit les plis de la culotte qu'il porte qui est assez lâche autour de son corps. Et il a la bouche un tout petit peu tenue. La tête tournée vers le côté gauche et son regard manifestement est pointé quelque part. C'est un éclat d'enfance, c'est quelque chose qui
est... Il est souriant, il est comment ?
Non, il n'est pas souriant, il est grave comme souvent les enfants sont graves en fait. Il n'a pas l'air plus inquiet que ça, mais il y a une gravité qui est assez gracieuse en fait chez lui. C'est un bel enfant. Et...
Il a les cheveux très noirs, certainement.
Oui, il a les cheveux très noirs comme un peu. Qui brillent comme s'ils étaient presque un peu humides en fait. Mais c'est la photo où on voit juste un éclat de son visage, donc c'est peut-être seulement un effet de la photo. Et le rideau, si on regarde la photo rapidement, on ne voit pas que c'est un rideau. On a presque l'impression qu'il est devant. Qu'une porte s'est entrebâillée et qu'on a saisi cet éclat de son enfance.
Ouais.
C'est très beau.
On voit un enfant avec un vélo, on a vraiment l'impression d'être en Sarajevo. La porte d'entrée est complètement détruite, des graffitis qui sont absolument sur tous les murs. Et on se rend compte qu'on est dans une barre d'immeuble parce que déjà, on est déjà à travers une vitre. Et derrière cette vitre, on voit encore un autre immeuble comme si on était cerné par des immeubles. Et alors ce qui est très très surprenant, c'est la vétusté vraiment des locaux et des lieux. Et ce petit enfant qui a ce vélo dans les mains a l'air un peu comme s'il était pris en faute, comme si tout d'un coup être photographié c'était un truc qu'il n'avait pas trop, il savait pas trop comment le gérer et qu'en penser. Il n'est pas encore dans une phase d'agressivité, mais donc les graffitis, je vois finalement tout le langage d'aujourd'hui, hein, je t'aime, aussi des injures.
Un quartier comme ça.
Défavorisé,
voilà.
Genre,
oui.
Attends, comment je peux te dire, chez nous, la ZUP.
La ZUP.
Qui était face à l'immeuble.
Non, qui était dans sa chambre avec son chien qui te caressait. Vous savez,
oui,
quand je vous ai dit que le papier était déchiré, là, il est couché, il est sur son lit et il y a un lavabo à côté de lui. Je pense que c'est sa chambre, je pense, avec un rideau tiré. Et il y a des scènes très touchantes qui sont deux photos qui sont tout en bas, notamment une maman avec son petit garçon qui sont dans la salle de bain, l'enfant pleure, elle le console. Une autre ils sont devant le rideau à la fenêtre et là l'enfant met la main devant la bouche de sa maman comme ça, enfin pour c'est très beau. Faudra voir avec vos yeux. Là, il y a beaucoup de situations d'enfants, de parents avec leurs enfants. Et il y a une très belle photo qui est un peu plus. On va aller devant.
Oui.
And how did you notice the difference by watching walking, people or by
talking with the people and walking
yes.
around the city and
mm-hmm.
you know I make a locations
okay.
For days and days.
How many long time did you need? How many long time?
Time? 12 days only. 12 days.
It's all black and white?
Black and white.
All the same measures?
Yes.
All the same types?
Yes. Same size. matter which size.
Thank you. La sucrerie. Emblématique de l'histoire de Chalon-sur-Saône, l'ancienne sucrerie se présente comme un vaste enclos industriel procédant d'une volonté d'isoler, en 1915, les bâtiments de production. 50 ans après sa création, en 1861, la sucrerie se dérobe au regard de Chalon. La sucrerie affirme alors sa présence à travers l'architecture.
Allô, c'est la radio du
Grand Albon.
Les tuk-tuk?
Non.
Quand il y a des véhicules qui diffusent l'information.
Ce sont des véhicules d'information qui diffusent des comptines. Voilà, ils sont habillés avec des gilets gonflables, avec une ceinture de sécurité pour vélo.
Bon, merci. Le même pas
tous les jours.
Bon, non, mais il n'y a pas les petits.
Peut-être plus en rose d'ailleurs, d'après le commun. Plus en rose qu'en chair. Pour bien le nourrir.
Vous mettez quelque chose du jambon dedans.
Dans le verre, on va mettre du jambon.
Ou n'importe, dans les deux même. Moi j'ai pris celle-là.
Ah, vous mangez d'abord le rouge ?
Ou n'importe. Mais j'ai goûté celle-là hier.
Oui.
Tiens, je voulais goûter. C'est du pain, hein ? Vous voulez goûter ?
Moi je l'ai goûté déjà, moi.
J'en prends pour les avantager parce que il y a des vitamines dedans. En plus.
Il y a de la vitamine dedans.
C'est pour ça, c'est très bien. L'émission qu'ils font là.
Tu vas venir ?
Ah non, c'est les expositions de tableaux là. Parce que la copine en a acheté, elle me l'a fait goûter. On a trouvé bizarre, voir du pain, la couleur comme ça. Voir la couleur.
Et pourquoi ils ont fait ça
Je ne sais pas. Mais J'en ai pris trois boules. Mais c'est les mêmes, hein.
C'est les mêmes.
C'est les mêmes, les trois.
C'est une soirée grandiose. La même.
D'accord.
Mais après, vous avez la langue soit bleue.
Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais. Belle langue bleue, là, ouais.
Hein, vous voyez.
Regardez bien la langue, là. Ah ouais.
Voilà. Vous mangez de la. Vous mangez de celle-là, là. Comme ça. Vous la mangez comme ça, bon, ouais. Hein? C'est l'exposition de tableau, donc le grand album. Vous voyez, c'est toutes des photos comme ça, vous avez.
Ils
sont exposées. Ils vont être exposés partout. Gratuites. Je suis André. André, voilà. J'ai travaillé 30 ans d'usine à la Seva, Pont-à-Mousson. J'ai travaillé 8 ans chez M. Braille, rue Aufer, la poissonnerie. J'ai travaillé un an chez Philips et un an chez RDP, télévision. Ça fait 41 ans de travail. Je suis à 13 ans de retraite. Eh oui. Je passe 69 là maintenant, au mois de janvier.
C'est une manifestation avec tout d'abord 12 photographes qui proposent un travail par rapport à la ville de Chalon, par rapport à ses habitants, par rapport à son architecture. Donc, c'est des photographes qui ont travaillé pendant un an ici. Et donc on va montrer leurs travaux du 21 au 24 septembre. Donc dans les rues de la ville, c'est que je ne montrerai pas dans le musée, mais dans les rues. Et donc on va avoir se construire des espèces de grandes maisons en bois, où donc des photos vont venir petit à petit. Alors il y en a 12, donc il y a Sarah Moon, Peter Knapp, Denis Darzac, Francesco Gisola, Valérie Coutron, Jean-Luc Moulin, Gérald Petit, Sébastien Peck, Marie-Paul Nègre, je pense que j'ai oublié personne. C'est des photographes qui viennent un peu tous les horizons. Il y en a qui font de la photo de mode, d'autres plutôt de la pub, d'autres du reportage. Et l'idée, c'était de les réunir dans une manifestation commune, parce qu'il y a des festivals qui sont spécialisés dans un courant ou un autre de la photographie. Tiens. Il y a aussi, parallèlement à ça, des preneurs de son qui travaillent ici, qui sont venus interviewer des gens sur Chalon et qui ont fait là aussi des créations par rapport à la ville, par rapport à la photographie.
Et je participe à une sorte de jeu radiophonique et je dois identifier ce...
Le pigeonnier.
Et puis, donc on a aussi des soirées à la sucrerie où vont se dérouler des concerts, des choses autour de la voix, là aussi autour du son. Et puis, au musée, là où vous êtes, il y a une grande exposition qui s'ouvre aussi à partir du 21 septembre, qui s'appelle Histoire parallèle, qui propose plusieurs histoires de la photographie.
Ok, merci.
Une forme d'éternité. Enfin, c'est pour ça qu'on est là, nous autres, conservateurs du musée, d'une certaine manière. En même temps, avec tout le côté dérisoire, cela, parce qu'on sait bien que, on sait bien comme pour un médecin, que notre combat est fondamental. C'est pas de la photo, c'est de l'image avec un grand I. Hein?
C'est pas non plus n'importe qui, Paul Jouet. On peut, à travers l'image, réfléchir tout simplement sur notre condition d'être vivant, enfin, un tant soit peu, quoi.
Ha ha ha!
Je cite là Georges Bataille dans un essai sur Manet. Nous imaginons mal le tableau que nous admirons, suspendu comme il le fut, entre l'incertitude que d'abord il était pour le peintre et la certitude qu'il est pour nous. Combien, si nous le replacions sous le jour douteux de la naissance, ces toiles si diverses, nous nous tromperions sur elles. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, si vous êtes à table, hein, c'est-à-dire le regard, excusez-moi d'expliquer, le regard donc que l'on porte sur des toiles, sur des images en fait, bon, à l'origine de ces toiles, et le regard que l'on porte aujourd'hui avec le recul de, du temps.
Est-ce que vous reconnaissez déjà? Vous
savez, je suis du Sud. Mais il y a des gens qui en connaissent. Non.
Si,
on entend qu'il y a des gens qui en reconnaissent. Ouais. Qui viennent, ils font bien, on va voir Marie.
C'est ça. Et vous venez d'où?
Besançon.
Et vous êtes venu pour le festival?
D'accord.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Bonjour. Génial. Ah oui. Mais oui, c'est Roger, c'est le conducteur du musée. Il rêve qu'il meure le Chalon-sur-Saône.
C'est génial.
Ah oui, parce que quand on connaît les personnages de la ville, c'est fantastique, non?
Ouais, mais il y en a qui sont voiles, hein.
Comme quoi là,
la fée Carabosse, oulala, c'est... Il y a beaucoup d'émotions.
Parce que ça a été pris dans un... C'était où, ça?
Je sais pas, mais voilà, une tête... On a vraiment envie qu'elle soit la fée Carabosse.
Il s'appelle comment, le photographe?
Jean-Luc Dorchy.
Vous le connaissez?
Oui. Pas un peu. J'ai croisé.
En fait, vous êtes des Chalons, vous?
Oui.
Ah, vous savez croiser tous les photographes?
Je suis sur le festival, surtout.
D'accord.
Depuis le mois d'août. Je n'ai croisé quelques-uns seulement. J'ai fait. Je ne m'occupe pas vraiment des artistes.
Quelle a été votre activité?
Elle était bleue. Là,
un peu de tout.
Aujourd'hui, j'ai mis du coton pour cacher la scène.
Ah, mais c'est important.
Important, hein? Très important. J'ai fait que des choses importantes sur le festival.
Bravo. Je vous laisse regarder.
Ouais, ouais,
merci.
Je rappelle, c'est sur 105.9. La radio, qui est une radio éphémère, vous avez peut-être écouté depuis ce matin, je crois que c'est assez temps d'écouter, on l'a eu personnellement, justement, qui a terminé tout à l'heure, je crois qu'on y entend des tas de choses intéressantes.
Les papiers aussi, mais pas tous les corps, de mon sang, de pieds, de mains, de l'indécision, c'est ça. Quand je fais l'exposition, comme c'est 7 minutes, quand
une matérie, cette matière, percus diaboli, il l'a dit en latin. Je pense que l'excrément du diable. L'excrément du diable, le nom savant de victime de l'autre. C'est un connu, c'est ce produit qui va servir à mettre pour immobiliser l'image du gré de l'attention.
Le poirier de gré blanc.
À propos de son cas, on a une merveilleuse anecdote d'un tal Max Pelletier à plusieurs reprises à propos de la poésie. C'est rien même, hein? Il me dit, il parle du poème, il dit mais le poème à un moment donné, mais à un moment donné j'ai pété mes poèmes, c'est tellement dérisoire par rapport à la poésie. Tellement dérisoire, et puis jusqu'au jour où j'ai compris, il raconte l'histoire sur le haut plateau du Mexique, et j'ai trouvé des braises encore rouges. Et les nomades, quand ils arrivent le soir, ils font un feu pour s'éclairer. Pour se réchauffer, ils sont dans la nuit, ils nous voient dans le jardin. Ils font un feu pour s'éclairer et ils le lendemain, au lieu d'éteindre le feu, et au lieu d'éteindre le feu, il le recouvre soigneusement, dit-il, de cendres, pour que les suivants, la génération suivante et d'autres après, retrouvent la braise et fassent avec cette braise à nouveau un feu vivant. Il lui dit, il ajoute, le poème c'est cela. Ça n'est que cela, une braise, mais il faut que quelqu'un dans la génération...
Puis on rend un petit hommage à Denis Bria, le photographe jardinier. On peut retrouver...
Gérald de Petit.
J'ai fait en sorte à ce que le moment de la prise de vue reste un peu une énigme. D'ailleurs, un peu pour moi aussi, puisque c'était une façon de travailler assez empirique. Mais surtout pour les gens que je ne connaissais pas, c'était un casting un peu improvisé dans la rue, avec des critères assez précis. Donc c'était parfois difficile de trouver les gens qui avaient le profil que j'attendais. Et la rencontre était assez rapide. Le dispositif était assez... Enfin, s'imposait à chaque fois entre la personne que je photographiais et moi. C'était une façon de reproduire un peu les conditions de prise de vue en studio, mais dans la rue, avec une certaine discrétion, puisque je m'isolais, je me mettais dans un endroit où les lumières étaient assez neutres pour travailler, et où il n'y avait pas trop de passages pour ne pas créer une gêne supplémentaire pour les gens. Moi, je suis resté assez peu précis, disons, sur la nature de la photographie. J'ai expliqué le type de travail que j'étais en train de faire, mais plus de façon formelle, le type de portrait, de cadrage. Donc les gens, généralement, en fait, ne demandaient pas tellement d'explications, mais se prêtaient au jeu, donc sans trop poser de questions, participaient à la prise de vue de façon assez, assez disciplinée, parce que c'est un travail à la chambre, il faut une certaine rigueur, il y a des contraintes, il ne faut pas bouger, etc. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était à partir d'une rencontre extrêmement rapide avec des gens qui pour la plupart, m'étaient complètement inconnus. C'était de créer une relation à travers la photographie, quasiment d'intimité. C'est-à-dire faire croire, laisser croire que par la restitution dans l'image, il y avait dans un premier temps une réelle complicité avec moi et dans un deuxième temps, une réelle complicité entre les personnes photographiées et un troisième temps, une réelle complicité entre les personnes photographiées et le public. Donc, par rapport à cette motivation et puis par rapport en regard du résultat des images, je suis assez content de ça parce que j'ai l'impression que ça, c'est un triangulaire qui a fonctionné en fait. On a les trois types d'échanges. Le Grand Album, c'est une histoire qui a démarré il y a un an et demi ou deux ans. À l'époque, François Cheval a imaginé donc d'inviter un certain nombre de photographes pour faire une sorte de spectacle en images dans la rue. Bon, il y avait tout un tas de motivations liées au passage à l'an 2000, à cette symbolique, etc., mais qui était très présente au début et qui est devenue un peu plus périphérique. La commande, au début, c'était... je ne sais plus si c'était une dizaine ou une douzaine de preneurs de vue qui allaient disposer chacun d'une période d'un ou deux mois dans la ville et qui devaient investir la ville avec des moyens qu'ils devaient inventer pour utiliser le centre-ville comme un réceptacle possible pour des images. Donc tout a été évoqué, la possibilité de travailler sur tout ce qui était panneaux d'affichage publicitaire, les bus, la Saône, des diaporamas, des projections vidéo un peu partout, etc. On nous a passé la commande et on devait formuler un projet assez rapidement qui allait être sélectionné ou non, avec des propositions pour investir la ville. Et en fait, François Cheval s'est rendu compte assez vite que ça allait être ingérable, puisque tout le monde avait des idées tout assez belles, mais tout assez démesurées au niveau du budget. Donc, en deux ans, en fait, le Grand Album, ça a été un laboratoire où tout a été reconsidéré tout le temps. Le format dans le temps, la façon de montrer les choses, la coordination, comment on pouvait donner un pendant à l'image. C'est-à-dire que pas rester dans quelque chose de statique et silencieux, mais ajouter de la musique, des choses peut-être un peu plus festives, etc. Et au fur et à mesure où le projet se précisait, nous, on avait une façon de travailler qui était modifiée, puisqu'il y avait des nouveaux intervenants, il y avait des nouveaux critères dont on était obligé de tenir compte. Ça a été malgré tout un travail d'atelier.
Declaración de la selva lacandona. Hoy decimos, aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria.
Quelques secondes. La sucrerie. Emblématique de l'histoire de Chalon-sur-Saône, l'ancienne sucrerie se présente comme un vaste enclos industriel procédant d'une volonté d'isoler, en 1915, les bâtiments de production. 50 ans après sa création, en 1861, la sucrerie se dérobe au regard des Chalonnais. La sucrerie affirme alors sa présence à travers l'architecture, support d'une nouvelle image. Un esprit appliqué et investigateur, Fortuné Joseph Petiot-Groffier, est associé à la naissance de cette industrie... Bah, d'y mettre le ton, d'être calme et de te dire qu'il faut que ça passe... Mais ouais,
heureusement qu'il est pas long.
J'ai honte. Est associé à la naissance de cette industrie sucrière. En homme moderne, il est également attentif au perfectionnement de la photographie.
À propos, je pense à une merveilleuse anecdote dont parle Max-Paul Fouché à plusieurs reprises à propos de la poésie, ce qui revient au même, hein. Il parle du poème, il dit mais le poème, à un moment donné, j'ai failli jeter tous mes poèmes, c'est tellement dérisoire par rapport à la poésie. C'est tellement dérisoire. Et puis, jusqu'au jour où j'ai compris, il raconte l'histoire sur les hauts plateaux du Mexique. J'ai trouvé des braises encore rouges. Et les nomades arrivent le soir, ils font un feu pour s'éclairer ou pour se réchauffer. Ils sont dans la nuit, nous voilà dans le sujet. Hein. Mmh. Ils font un feu pour s'éclairer et le lendemain, au lieu d'éteindre le feu, et au lieu d'éteindre le feu, il le recouvre soigneusement, dit-il, de cendres, pour que les suivants, la génération suivante et d'autres après, retrouvent la braise et fassent avec cette braise à nouveau un feu vivant. Et il dit, et il ajoute, le poème c'est cela. Ça n'est que cela, une braise, mais il faut que quelqu'un dans la génération suivante le retrouve. Beaucoup de braises ne seront pas retrouvées, mais certaines seront retrouvées, et là, quelqu'un en fera un feu. Et il faut très peu de lumière pour que ça fonctionne.
C'est pas de la photo, hein?
Non, c'est pas de la photo, c'est de l'image, avec un grand I. Hein? Bon. Une forme d'éternité. Enfin, c'est pour ça qu'on est là, nous autres, conservateurs du musée, d'une certaine manière. En même temps, avec tout le côté dérisoire que cela a, parce qu'on sait bien comme pour un médecin, que notre combat est fondamentalement raté. Mais on le fait quand même, c'est ça. Et alors, je pense aussi, à propos, je pense à...
Bonjour à tous, c'est le kaléidoscope entièrement consacré à l'écriture de lumière, c'est-à-dire à la photographie. Paul Jay, notre invité. Paul Jay, bonjour.
Bonjour.
Je cite là Georges Bataille dans un essai sur Manet. Nous imaginons mal le tableau que nous admirons, suspendu comme il le fut, entre l'incertitude que d'abord il était pour le peintre et la certitude qu'il est pour nous. Combien, si nous le replacions sous le jour douteux de la naissance, ces toiles si diverses, nous nous tromperions sur elles. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, si vous êtes à table. Hein, c'est-à-dire le regard, excusez-moi d'expliquer, le regard donc que l'on porte sur des toiles, sur des images en fait, à l'origine de ces toiles, et le regard que l'on porte aujourd'hui avec le recul du temps. Page 167.
Je me réveillerai, ce sera le matin, un matin différent, avec encore au ciel une traînée d'étoiles, comme autrefois, lorsque j'étais vivant. Un peu d'ancienne terre et de temps coulera de mes doigts sur le sol de l'éternité. Mes yeux, passés à l'encre de l'absence, reverront le soleil qu'ils aimeront en face. Et le vent passera, encore imprégné des fumées de la terre et des gestes d'amour pris aux moissons sur le couchant. Et le monde sera cette maison déserte où se voit en plus clair sur les murs l'empreinte des objets et sur l'usure des chemins la trace enlacée de nos ombres. Je me réveillerai de cette vie lointaine, de cette ancienne mort devenue béante cette nuit, où dérivent gerbiers tournoyant dans la crue les villages de notre amour au bout de leur route rompue. Je sortirai de cette mer où notre temps passé, laissant à fleur de vague nos épaves légères, renouera sous le ciel le fragile archipel de ces îles de cendres où tremble une fougère. Ce sera le matin, ces parois de cristal aux orgues de silence, et nous serons vivants, car il n'est pas de Dieu des morts.
Merci Paul Jay, les conserves de Nicéphore, un ouvrage sorti aux éditions des Amis du Musée Niépce. Être libre dans un monde d'images, c'est tout simplement ce qu'on voulait essayer de dire en parlant comme ça à bâton rompu ensemble. Et merci à tous de votre attention. À la semaine prochaine pour un nouveau Kaléidoscope. On a un tout petit peu débordé de quelques secondes. C'est des choses qui arrivent. Bonne journée en tout cas à tous.
Le magazine de l'image, présenté par Claude Carrez.
C'est pas non plus n'importe qui, Paul Jay. Et on peut, à travers l'image, réfléchir tout simplement sur notre condition d'être vivant, enfin, tant soit peu, quoi.
Quelle émotion quand j'ai vu arriver cet homme un jour avec une empreinte de fougère dans un schiste charbonneux qu'il me donnait comme ça, en disant, voilà, j'avais trouvé des schistes de fougère comme ça dans mon travail et je vous les donne. Il me les donnait à moi, conservateur du musée Niépce de Chalon-sur-Saône.
Il n'avait rien compris.
Et il était allé chercher dans le noir de la mine de charbon, dans le noir de l'âme, j'ai envie de dire, les marques végétales dans ce cas-là, marques de feu aussi, marques de la lumière d'un autre monde. Et il me les donnait, il me donnait la première photographie des millénaires avant celle de Nicéphore Niépce, qu'il a prise de sa fenêtre. Le poirier de beurret blanc. Et même, on aperçoit sur la gauche, ici, les croisées de la fenêtre qui sont dans un ton plus clair, sur fond plus sombre.
Merci de rester avec nous. Ça ne va pas être trop difficile.
Moi, je pense que le mot conserve est important parce qu'il est un des aspects importants de la photographie, qui est de conserver la jeunesse, de conserver la vie par conséquent. Il faut une optique pour cela. Il faut un outil qui nous permet de nous affronter à l'éternité. Et on arrive à la caméra obscura, qui est un outil qui d'abord a été un outil utilisé, je parle du 12e, 13e siècle et probablement de l'Antiquité, un outil utilisé pour se mettre en face du soleil. Il reste de cet affrontement au soleil des signes sur ma peau qui prouvent que j'ai regardé le soleil en face. Il y a quand même des choses extraordinaires, inexplicables. Le bitume, l'asphalte, le goudron, qu'on appelle juste, que Niépce appelait le bitume de Judée. Et le bitume, c'est ce matériau, cette matière. Stercus diaboli.
Il l'a dit.
En latin.
Oui.
Restons polis, l'excrément du diable.
Oui, c'est compréhensible.
Hein? Mm-hmm. L'excrément du diable, le nom savant du bitume de Judée. C'est pas étonnant si c'est ce produit qui va servir à Niépce pour immobiliser l'image vue de l'au-delà de sa fenêtre.
Le poirier de beurret blanc.
J'espère que lorsque le pyréolophore va être mis à l'eau et que le principe va être mis en marche, vous aurez seulement la promenade tranquille d'une barque en apparence banale, mais dont M. Baudet va vous révéler toute la complexité.
Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que nous vous accueillons ce soir pour découvrir une invention qui devrait vous surprendre, mais aussi témoigner du génie de Nicéphore et de son frère, Claude Niépce, qu'on oublie souvent, son frère aîné d'ailleurs. Le curieux engin, donc, qui est suspendu là-bas, devant vous, est un pyréolophore. Il a été construit en 6 mois par des élèves et des professeurs du lycée Nicéphore Niépce, à partir d'un brevet d'invention déposé par les frères Niépce en juillet 1807. Pirellofort signifie « qui est mu par l'air et le feu ». Il porte donc bien son nom, comme vous allez le voir tout à l'heure. L'objectif pour nous était relativement modeste dans un premier temps, avant de penser aux performances possibles de cet engin, c'était de prouver, très simplement, mais en fonctionnement, ce qui a été peut-être fait dans certains laboratoires de l'armée, qu'un pirellofort était valide et que le brevet de nos deux inventeurs locaux méritait beaucoup de considération et qu'il a parfois été injustement oublié. Le procédé mis au point par Nicéphore et Claude Niépce après 5 ans de recherche, entre 1801 et 1806, peut être à juste titre considéré comme le premier moteur à explosion de l'histoire de l'humanité. Premier moteur à explosion interne, c'est ça qui est très important. Et cela 50 ans avant les inventeurs présumés, Lenoir et Diesel, qui sont bien connus. Et surtout, 20 ans seulement après l'invention de la machine à vapeur et du premier bateau de Jouffroy d'Aban, 20 ans seulement pour considérer, de la part de Nicéphore Niépce, puisque la machine à vapeur était déjà peut-être dépassée. Combustion externe, lourde, longue à mettre en marche, mauvais rendement, bruyante, tous les inconvénients qu'on lui connaît et qui d'ailleurs ont fait qu'elle était maintenant abandonnée dans les sciences et techniques. Mais le plus étonnant peut-être est aussi la propulsion du bateau. On en parle très peu. Elle se fait par réaction, ce qui est tout à fait révolutionnaire pour l'époque, et n'a jamais été réutilisée, tenez-vous bien, avant les fusées V1 et Werner von Braun, qui a d'ailleurs travaillé sur les projets de Nicéphore Niépce. Alors je vous invite, si vous le pouvez, à vous mettre autour du bateau pour que mes collègues, que je crois deviner au loin, puissent vous expliquer le fonctionnement. Eux injectaient un mélange d'eau, d'air, pardon, et de poudre de lycopode. Nous, nous avons simplement utilisé le gaz. Notre moteur est donc à gaz et nous injectons par des tuyaux, vous pouvez voir la partie supérieure, donc un mélange d'air et de gaz dans des proportions très précises afin de respecter les limites d'explosivité et avoir un excellent rendement thermodynamique. Lorsque l'air et le gaz sont injectés, des bougies, à l'époque les frères Niépce utilisaient des mèches qui tournaient, nous avons des bougies à l'allumage électronique, l'ensemble va s'enflammer, le mélange va s'enflammer, la température va s'élever très fortement, et une très grande pression va régner à l'intérieur des cuves et va expulser violemment l'eau contenue dans les tuyères. Le bateau va donc avancer comme un bateau à réaction ou un avion à réaction. Mes collègues vont maintenant vous faire une démonstration du fonctionnement sur la Saône de cet engin. Et donc, ils vont prendre place après que la grue va avoir déposé délicatement, on l'espère, le bateau donc, dans l'eau. Merci de votre attention.
Qui marche. Alors. Ramène-le.
Il s'agit donc de la tribune républicaine de François Chauvin, qui déteste qu'on personnalise, bien entendu. Je voudrais, avant que commence véritablement notre déambulation, vous dire un mot à propos de ce grand album qui nous réunit ce soir et jusqu'à dimanche. Tout à l'heure, je donnerai la parole à monsieur le proviseur du lycée Niels qui nous dira un mot du... Comment dit-on déjà? Du P... Pourtant, tout à l'heure, je suis arrivé à le dire sans hésiter, Pyréolophore, ce moteur inventé par Nicéphore Niels, j'en dirai pas davantage, qui, la première fois, a explosé, et qui, ce soir, monsieur le proviseur, n'explose pas. Enfin, en tout cas, c'est prévu comme ça. Donc, le grand album, au départ, il s'agit de commémorer l'an 2000. Et dans le cadre de ces commémorations que nous avons voulu, je dirais, plus profondes, plus importantes, plus intéressantes qu'une simple fête, nous avons souhaité, tout au long de l'année 2000, faire en sorte que ce passage d'un millénaire à l'autre soit l'occasion de réfléchir un peu, de se poser des questions sans en rajouter dans le sérieux ou dans le triste, mais s'interroger un peu sur la signification de ce changement de millénaire. Et c'est dans ce cadre-là que François Sauval nous a proposé d'inviter une série de photographes à travailler à Chalon, à travailler avec les Chalonnais, pour nous restituer leur vision de Chalon, leur vision des Chalonnais, en toute liberté de leur art et de leur capacité à restituer ainsi une réalité. Et dans cet esprit-là, un certain nombre de présentations ont été installées dans la ville pour justement faire en sorte que cette vision de Chalon et des Chalonnais vous soit proposée non pas à l'intérieur d'un musée, mais dans la ville, dans des installations qui ont été réalisées pour cela. Les prises de vue de tous les enfants des crèches par Valérie Coutron, le projet « J'ai toujours rêvé d'être » de Jean-Luc Dorchy, qui d'ailleurs s'était essayé sur le personnel et les élus municipaux au début de l'année. On s'en souvient d'un certain nombre, mais c'est intéressant. Le projet sur les reines de Chalon de Jean-Luc Moulin, des rencontres avec les familles du quartier du Stade, un casting dans la population vidéo, des familles immigrées et l'insertion des jeunes, un autre thème, les sportifs chalonnais avec l'agence Transport, des prises de vue de passants, etc. Donc toute une série de visions de Chalon et des Chalonnais. Et c'est donc ce rendu du travail qui vous est proposé du 21 au 24 septembre. Et bien sûr, le point de départ de cette déambulation qui nous permettra de découvrir ces créations, c'est la statue de Nicéphore Niels qui est derrière nous ici ce soir. Autre lieu important, parce que ça fait partie aussi de l'histoire de la ville, bien sûr, c'est la sucrerie où se passeront un certain nombre de choses et qui deviendra tous les soirs un lieu de convivialité, de rencontre et de spectacle.
Ce qui est intéressant au niveau du miroir, c'est que le miroir concave est un miroir qui enflamme, qui fait prendre feu, parce qu'il concentre les rayons du soleil sur un point. C'est une arme du coup, c'est triste, mais ça fait prendre feu, ça c'est intéressant. Non, mais le musée Niels, quand même, a cette particularité d'être un musée où il ne faut pas forcément être ancien, puisque c'était notre propre passé, notre passé d'hier. C'est pas comme mes collègues archéologues qui vont chercher dans la mémoire gallo-romaine.
Denis Darzac. Place du théâtre. Il y a un truc assez marrant, c'est qu'effectivement, les photographies de Moulin, elles étaient placées 15 cm plus haut il y a 2-3 jours. Il est venu, il les a rectifiées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a les photographies, ne serait-ce que 15 cm plus bas, et que tout d'un coup, on est face au regard des personnes qui sont photographiées, ouais, ça change toute l'organisation. Si tout d'un coup, les reines de Chalon étaient 15 cm plus haut, là, il y aurait leur regard qui partirait au-dessus de nos têtes. Ça manquerait un peu de communication. En redescendant les photographies de 15 cm, on est en regard, on échange avec les personnes photographiées, et c'est plus fort.
Bah donc je suis Laure Perrault, bénévole pour le Grand Album. Je m'occupe de la structure de Francesco Zizzola.
Il est né en 1962, il vit à Rome. Ouais. Il exerce la profession de grand reporter. Il obtient le premier prix du World Press Photo en 1997 avec une photographie illustrant la tragédie des mines antipersonnelles en Angola. Il poursuit depuis 10 ans une œuvre personnelle sur la condition des enfants à travers le monde. À Chalon-sur-Saône, à la rencontre des familles d'origine étrangère, il enregistre leurs histoires et leurs déracinements. Pour Francesco Zizola, Chalon-sur-Saône est un microcosme, une métaphore de l'Europe et de ses processus d'immigration. Réalisé grâce à la Chambre de commerce et d'industrie et à l'agence Pruneau Vanier. Voilà, on entre. Alors il y a une sorte de marche. Voilà, il y en a qu'une.
C'est quoi, c'est un bâtiment?
Oui, c'est comme un bâtiment. Alors il y a une structure en bois qui va supporter donc les photos sont posées contre la structure.
C'est des lattes, des cadres de bois sur lesquels les photographies sont installées.
Apparemment, ce sont des photos d'émigrés, enfin de quartiers pauvres, avec des HLM probablement, des enfants, une vision un peu. Enfin, pas pessimiste, mais peut-être réaliste quand même, mais d'une certaine pauvreté de banlieue. Pour moi, ça serait un Chalon, un Chalon pas très, très riche. Enfin, c'est...
Voilà. Tout est en noir et blanc.
C'est très beau.
On voit un enfant avec un vélo. On a vraiment l'impression d'être en Sarajevo. La porte d'entrée est complètement détruite. Les graffitis qui sont complètement absolument sur tous les murs. Et on se rend compte qu'on est dans une barre d'immeuble parce que déjà, on est déjà à travers une vitre. Et derrière cette vitre, on voit encore un autre immeuble comme si on était cerné par des immeubles. Et alors, ce qui est très, très surprenant, c'est la vétusté vraiment des locaux et des lieux. Et ce petit enfant ce vélo dans les mains a l'air un peu comme s'il était pris en faute, comme si tout d'un coup, tout de rafier, c'était un truc qu'il n'avait pas trop. Il savait pas trop comment le gérer et qu'en penser. Il n'est pas encore dans une phase d'agressivité, mais. Donc les graffitis, je vois finalement tout le langage d'aujourd'hui, je t'aime, et c'est des injures.
Un quartier comme ça.
Défavorisé, attends, comment je peux te dire, chez nous, la ZUP.
La ZUP.
Qui était face à l'immeuble ? Non, qui était dans sa chambre avec son chien qui le caressait. Vous savez, quand je vous ai dit que le papier était déchiré. Mais là, il est couché, il est sur son lit et il y a un lavabo à côté de lui. Je pense que c'est sa chambre, avec un rideau tiré. Et il y a des scènes très touchantes qui sont deux photos qui sont tout en bas, notamment une maman avec son petit garçon qui sont dans la salle de bain, l'enfant pleure, elle le console. Une autre où ils sont devant le rideau à la fenêtre et là l'enfant met la main devant la bouche de sa maman comme ça, enfin c'est très beau. Faudra voir avec vos yeux. Là, il y a beaucoup de situations d'enfants, de parents avec leurs enfants. Et il y a une très belle photo qui est un peu plus. On va aller devant.
Oui. And how did you notice the difference by watching people
walking,
or by
talking with the people and walking yes. around the city and you know I make locations okay. For days and days.
Vous pouvez me demander combien de temps il a passé pour faire ce travail.
How many long time did you need? How many long time?
12 days only.
12
days. 12 days to shut the church.
It's all black and white?
All black and white.
All the same measures?
Yes.
All the same
yes.
types?
Yes, same sides. Yeah. If you want, it's possible to touch the picture and so you realize better which size.
Yes. Thank you.
Thank you very much.
Nothing.
Je me rends compte qu'on peut voir oui. en étant aveugle. S'il y a quelqu'un qui t'explique. Bah, voir dans la
oui.
tête. Hein.
Oui, je comprends.
S'il y a quelqu'un qui explique bien, comme oui. toi par exemple, tu peux voir.
Hein. Ah oui.
Enfin,
bien.
Dans ta tête. Ah, imaginez.
Oui, bien. C'est, hein. bien.
C'est bien. Hein.
Ouais.
Elisa
ah, je suis content.
Tu aimes ? Est-ce que tu imagines les photos ?
Vous sentez le sol?
Oui.
Il est comment ce sol?
J'ai l'impression qu'il est légèrement en pente.
Oui,
vers
l'avant. C'était la poissonnerie, donc il fallait évacuer les eaux. Et en plus, il est anti-glissant. C'est des carreaux avec des petites...
Un petit peu poreux, un petit peu...
Du petit relief.
D'accord,
là.
Oui.
Vous sentez?
On voit d'un côté un immeuble de la Cité du Stade et sur l'autre côté, l'autre photo, à travers la fenêtre d'une voiture, un pare-brise, le centre-ville, c'est-à-dire l'hôpital où on était tout à l'heure. Mm-hmm. Donc là, il y a vraiment l'affrontement des deux lieux, des deux mondes en fait, que le photographe a abordé, raconté.
Oui, quand il a passé un jour, deux jours avec les gens, mais...